Jules et Pure Akan.
RFI Musique.
Autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger sur l'IA, l'intelligence artificielle, dans une autre perspective, depuis le continent africain. Comment les chercheurs et les chercheuses du continent s'emparent-ils de ces technologies disruptives? Et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour les Africains, mais aussi pour tous les citoyens des Suds, que de développer la formation, l'expertise et les recherches de pointe en IA, développées depuis le Sud et pour les Suds? Piste de réponse d'un pionnier de l'apprentissage profond des machines, le chercheur Mustapha Cissé, fondateur et directeur du premier master en intelligence artificielle sur le continent, qui a démissionné de la direction du laboratoire de recherche en IA de Google au Ghana pour lancer au Sénégal une plateforme d'intelligence artificielle pour la santé. Rencontre depuis nos studios à Dakar avec un chercheur engagé sur le continent autour de la question: pourquoi et comment faire de l'IA made in Africa? Bienvenue.
Un des points clés des IA, c'est les données qui vont les nourrir, sur lesquelles ils vont faire un apprentissage. Et il y a la question des cultures africaines qui ne nourrissent sûrement pas autant les IA que ce qu'elles devraient. Comment l'Afrique peut développer ces données pour qu'une IA ait une pensée sur la culture africaine?
Bonjour Mustapha Cissé.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de RFI à Dakar. Autour de la question de cette intelligence artificielle made in Africa, vous savez de quoi vous parlez, Mustapha Cissé, car vous étiez jusqu'à tout récemment à la tête du centre de recherche en IA de Google, à Accra, au Ghana. Vous avez choisi, je l'ai dit, de le démissionner pour revenir chez vous, au Sénégal, monter une plateforme en intelligence artificielle pour la santé, Kera, qui devrait ensuite s'étendre à tout le continent. Vous avez aussi créé et vous dirigez le premier master en intelligence artificielle des instituts AIMS, que ce soit à Kigali au Rwanda ou cette année bientôt à Dakar au Sénégal. Pourquoi est-ce si important que les chercheurs et les entrepreneurs d'Afrique s'emparent de l'IA? Est-ce que c'est, comme vient de le demander mon confrère Hervé Poirier du magazine scientifique Epsilon, est-ce que c'est d'abord pour produire des données en Afrique pour sortir et limiter les biais sociaux, économiques ou culturels?
Alors c'est une vaste question. c'est effectivement un point important, mais ce n'est pas le plus important. Moi, je suis militant d'une intelligence artificielle axiologique. Une intelligence artificielle axiologique, c'est une intelligence artificielle qui est alignée sur les valeurs des sociétés qu'elle est censée servir. À partir de ce moment qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Amérique, il est important que la technologie soit conçue et développée localement pour prendre en charge des besoins qui sont d'abord des besoins locaux et potentiellement extensibles à d'autres géographies. Donc ce n'est pas une question qui est spécifique à l'Afrique, même s'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est une question qui est valable pour toutes les géographies du monde. J'aimerais cependant revenir sur un point de votre collègue M. Poirier, qui parlait d'une intelligence artificielle qui peut avoir une pensée sur la culture africaine. Donc, je pense que c'est aussi un point qui mérite d'être discuté, parce que attribuer à une intelligence artificielle une pensée, c'est dans une certaine mesure l'anthropomorphiser.
Ne pas comprendre ce que c'est.
Pas juste ne pas comprendre ce que c'est, mais lui attribuer des qualificatifs qui sont naturellement dévolus à l'être humain et lui concéder, si je peux m'exprimer ainsi, des attributs et des capacités qui sont inexistants en réalité. Une intelligence artificielle ne pense pas.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence artificielle? Parce qu'on sait que les mots sont compliqués, on parle d'intelligence, est-ce vraiment une intelligence? Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment justement vous vous le définiriez? Puisque vous dites tout de même que attention à ne pas l'anthropomorphiser, attention aussi à se méfier de tous les biais possibles et imaginables, et qu'il faut créer une intelligence artificielle pour qu'elle nous serve en fait. C'est ça, hein, si je vous entends bien, Moustapha Cissé.
Bon, d'abord, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons pris le soin de dire intelligence artificielle parce que nous pensons généralement que toute intelligence qui n'est pas la nôtre est par conséquent une intelligence artificielle. Un de mes collègues et très bon ami, Yann Lequin, dit généralement que les avions volent. Mais on ne parle pas de vol artificiel. Voilà, donc moi je préfère généralement parler d'intelligence machine pour qu'on sache exactement de quoi on parle, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et on peut créer des algorithmes qui font que les machines aujourd'hui manifestent des comportements qui correspondent à une certaine forme d'intelligence. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette intelligence a le niveau ou est général au point d'être comparé ou d'être considéré comme une intelligence de niveau humain. Voilà.
Exactement. Donc, et d'ailleurs, moi, j'ai envie de reprendre hein, votre terme d'intelligence machine, parce que l'intelligence humaine, je ne sais pas comment vous le dire autrement qu'en vous faisant des compliments, Moustapha Cissé, mais c'est vous qui la possédez. J'ai envie de revenir un peu aussi sur votre parcours pour comprendre un peu comment vous avez pu développer cette réflexion et continuer à la développer et pourquoi vous y engagez à ce point-là. Je rappelle que vous êtes un ancien de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Hein, c'est vraiment une pépinière de talent. Vous avez ensuite poursuivi vos études et vos recherches en France, à l'université Pierre et Marie Curie, mais aussi au Japon, au Canada. Vous avez beaucoup travaillé, vous venez de le citer, hein, auprès de Yann Lequin, devenu votre ami, qui a donc dirigé le réseau de recherche en IA de Facebook et qui le dirige toujours. Vous auriez pu mener une très brillante carrière en dehors du continent, en intelligence machine, pour reprendre vos termes. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Vous aviez ça toujours en ligne de mire, de revenir sur le continent d'abord et puis chez vous au Sénégal ensuite?
Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir commencé mon parcours à l'université Gaston Berger, parce que c'est une communauté dont je suis très proche. Mes meilleures, c'est les années les plus marquantes de ma vie d'étudiant. J'y ai connu certains de mes meilleurs amis et ce sont des souvenirs très importants pour moi. Donc, je salue tout le monde au passage. pour en revenir à votre question, je pense que le simple fait de poser cette question, en fait, m'interroge sur beaucoup de choses. Ouais. Vous savez, lorsque je connais beaucoup de chercheurs avec qui j'ai travaillé dans différents endroits du monde, qui sont français, comme vous. Et en fait, lorsqu'ils rentrent en France, personne ne leur demande pourquoi vous êtes revenu en France.
Vous avez raison.
Parce que tout le monde pense qu'il est normal que lorsqu'ils ont exprimé leur talent ou bien lorsqu'ils ont travaillé à d'autres endroits, qu'ils reviennent chez eux pour essayer d'y construire quelque chose et de servir leur communauté. Par contre, lorsque un Africain, en règle générale, ou un Sénégalais comme moi, a été dans certains endroits. Il paraît toujours très surprenant de le voir revenir chez eux. Ça ne devrait pas être une sujet à discussion en réalité, parce que d'abord, la recherche n'a pas de drapeau. Moi, je considère que la science est universelle. Ensuite, je pense que les chercheurs et les scientifiques, en règle générale, ont à cœur d'avoir de l'impact sur la société. Et en ce qui me concerne, je pense que cet impact, potentiellement, est réalisable à un niveau bien supérieur en Afrique que partout ailleurs, du fait de différents facteurs qui comprennent, bien entendu, le potentiel de progrès technologique, la structure de la démographie, la nature de nos économies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et la technologie peut aujourd'hui être un catalyseur pour le progrès dans différents secteurs. Et je suis juste enthousiaste, autant que d'autres, de pouvoir y contribuer. Et donc, je pense que la question de pourquoi vous revenez Le sous-entendu implicite qui dit en fait vous auriez pu rester ailleurs. Non, en réalité c'est la question inverse qui devrait être posée. Pourquoi vous êtes resté si longtemps sans revenir? J'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt en réalité.
C'est magnifique quand vous me retournez la question, et d'ailleurs quand vous retournez toutes les questions, vous êtes un peu un empêcheur de penser en rond, ou quelqu'un qu'on peut pas mettre dans une case justement. Vous avez été classé parmi les Africains les plus influents du continent, hein, c'était par Jeune Afrique et The Africa Report en 2019, parce que là encore, vous aviez été nommé par Google à la tête du premier centre de recherche sur le continent, c'était Accra au Ghana, et vous avez démissionné pour revenir au Sénégal. Donc en fait, vous n'êtes jamais là où on vous attend, et je ne sais pas si vous cherchez la difficulté, mais vous acceptez de travailler même quand les conditions de recherche sont peut-être plus difficiles. Je ne parle pas des conditions économiques, je parle des conditions de recherche, mais même pour le mot conditions économiques, Moustapha Cissé.
Écoutez, ce que j'ai fait n'est pas bien différent de ce que font tous les chercheurs. La réalité, c'est que en science, l'important, c'est de poser les bonnes questions. Les réponses ne sont en réalité que les effets de bord des questions. Mm-hmm. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver les bons challenges. Alors, les bons challenges, on peut les trouver à des endroits que le public, en règle générale, ne s'attend pas, qui peuvent sembler imprévisibles, mais il y a une logique à tout ça. Je me rappelle quand j'ai démissionné de Facebook pour rentrer en Afrique, c'était quelque chose de très surprenant pour une bonne partie de mes proches et aussi pour mes collègues, parce que c'était un moment où on était dans un labo qui était à cette époque-là et qui est toujours d'ailleurs un des meilleurs labos de l'intelligence artificielle du monde. Mm-hmm. J'étais dans une équipe extrêmement performante et tout se passait très bien et j'ai décidé de rentrer. Donc, je suis rentré et je ne l'ai pas regretté. Donc, j'ai eu plus d'impact que là où je me trouvais auparavant, parce qu'on a eu l'occasion d'abord de créer ce programme de master en intelligence artificielle, ensuite de créer le centre de recherche et de faire beaucoup de choses, parce que l'impact qui découle de ces deux projets est aujourd'hui très important. Après un certain temps, il est toujours important de renouveler ces challenges et d'en découvrir de nouveaux et de mettre ce qu'on sait faire en collaboration avec d'autres au service de la société, au service du progrès, tout simplement.
On va revenir sur l'impact que vous avez eu et que vous avez aujourd'hui sur le continent autour de cette intelligence artificielle, intelligence machine, je vais choisir votre terme. Donc ça va être autour de la question comment faire de l'intelligence machine made in Africa. Nouvelle question tout de suite. Alors je ne sais pas si vous allez l'apprécier ou pas, mais j'aime bien la manière dont vous la retournez. Donc je vous la soumets, soulevée par un chercheur qui, comme vous, est un empêcheur de penser en rond. C'est le neuroscientifique et psychologue Albert Moukeiber, qui était récemment notre invité et qui vous interroge, Moustapha Cissé.
Quand on voit les sommes faramineuses qu'ont à leur disposition des OpenAI, Microsoft, qui vient de mettre des milliards de dollars dans le truc de OpenAI, Google, avec Bard, Meta, etc., comment est-ce qu'on se motive quand on a des moyens qui sont infiniment plus restreints pour donner de la confiance qu'on peut développer des choses qui ont une application qui, moi, je pense, peuvent être meilleures. Parce qu'on l'a déjà vu, notamment en neurosciences, c'est pas parce qu'on met de l'argent dans quelque chose qu'on va avoir des résultats. Donc comment est-ce qu'on fait? Et surtout que j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Atlas of AI, d'une chercheuse en intelligence artificielle qui s'appelle Kate Crawford, sur le besoin en matériaux pour faire de l'intelligence artificielle. Donc aller chercher du lithium, du nickel, du chrome. Quand on sait que tout ça vient souvent de l'Afrique, qui va être utilisée pour des ordinateurs ailleurs. Quand on sait que la matière première est juste à côté de chez nous et qu'elle est inaccessible, comment est-ce qu'on concilie toutes ces contradictions?
Comment est-ce que vous conciliez tout ça, Moustapha Cissé?
Alors, je dois d'abord dire que ce que dit mon
Albert
collègue...
Albert Moukeiber, oui.
Voilà, Albert Moukeiber. Et très juste, ceci dit, je dois juste mettre la précision que ce n'est pas particulier à l'intelligence artificielle, ce dont on parle là. Mm-hmm, on parle de la recherche et de la science en général en Afrique.
Absolument.
Il est important de préciser qu'aucun pays du continent à ce jour n'investit 1% de son PIB dans la recherche. Mm-hmm. Donc,
même pas 1% de son PIB, c'est ça, hein.
Aucun, y compris l'Afrique du Sud, d'ailleurs.
Ah oui.
Donc je pense que c'est une chose sur laquelle il faut s'arrêter aujourd'hui. Il y a certains gouvernements à travers le continent qui sont beaucoup plus volontaire et beaucoup plus ambitieux et qui commence à poser les jalons du progrès, de projets importants dans ce secteur. Mais il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire, vu la structure de notre démographie et la quantité d'impact à réaliser potentiellement à travers la recherche, le développement et la technologie. Maintenant, pour en revenir à l'intelligence artificielle, il est clair que nous parlons d'une discipline aujourd'hui dans laquelle les moyens en puissance de calcul ont un caractère déterminant dans la qualité de la recherche qui est faite et de la technologie qui est produite. Ceci étant dit, il ne faut pas sous-estimer le privilège de la frugalité.
Ouais.
Lorsqu'on n'a pas beaucoup à disposition, on trouve très souvent des solutions beaucoup plus efficientes. Alors, cette contrainte qu'on a aujourd'hui, et je ne suis pas en train de dire que nous devrions continuer à vivre dans cette contrainte, je dis juste qu'elle doit, pendant qu'on y est, servir à nous focaliser sur les problèmes les plus importants et sur lesquels on peut avoir le plus d'impact possible.
Et qui sont, en l'occurrence
Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, nous vivons sur un continent qui a la plus grande croissance démographique du monde.
Okay,
nous parlons d'une population qui va passer de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2040. Donc la population va doubler et une bonne partie de cette population est très jeune. Je vis dans un pays, le Sénégal, qui est aujourd'hui l'âge médian de la population au Sénégal est de 19 ans, et ce n'est pas une exception en Afrique subsaharienne. Donc c'est une population qui est une démographie qui est porteuse de promesses, mais pour que ces promesses se réalisent, il faut par exemple que cette population soit bien éduquée, qu'elle ait accès à l'information et qu'elle ait accès à la formation pour créer les richesses qui permettront demain de faire avancer nos économies. Il faut, c'est aussi important que cette population soit en bonne santé. Et pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle ait accès à une information de santé de qualité. Il faut qu'elle puisse avoir accès à des soins de santé de qualité à des prix qui sont abordables lorsqu'elle en a besoin. Et pour toutes ces catégories de problèmes, la technologie n'apporte pas une solution ultime, mais elle peut être, elle peut contribuer à apporter des solutions, elle peut être catalyseur, et je pense qu'on n'y travaille pas assez. Donc, il n'y a pas assez d'investissement, c'est vrai, et ça, c'est une question à poser au pouvoir public, bien entendu, mais aussi il doit y avoir de l'investissement privé, bien entendu. Je pense que c'est important. Et cette combinaison d'investissement doit être focalisée dans les secteurs qui sont les plus importants dans un premier temps. Et je pense que il suffit juste de commencer. Il faut avoir des premiers succès. Ensuite, le reste viendra. Rome ne s'est pas fait en un jour.
Ce n'est qu'un début.
Dakar.
Voilà, Dakar ne sera pas en un jour. L'intelligence artificielle, l'intelligence machine made in Africa ne se fera pas en un jour. Mais vous y travaillez ardemment. Du coup, on a choisi un morceau qui, à mon sens, illustre parfaitement votre engagement, votre parcours et votre action en tant que chercheur et entrepreneur, Moustapha Cissé. C'est The Courage to Change, dans la belle voix de Sia sur RFI.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, pardon me. The rain it falls, when it falls, sowing the seeds of love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the
The courage to change our mind. The courage to change our mind. The courage.
Sur RFI de Courage to Change, morceau qu'on dirait presque écrit pour notre invité en duplex depuis nos studios à Dakar. C'est le chercheur et entrepreneur Moustapha Cissé qui, je le rappelle, a quitté la direction du tout premier centre de recherche de Google dédié à l'intelligence artificielle à Accra, au Ghana, pour lancer une plateforme d'intelligence artificielle appliquée à la santé depuis le Sénégal et à destination ensuite de tout le continent. Moustapha Cissé qui a également créé et qui dirige le premier master en intelligence artificielle du continent. Autour de la question pourquoi et comment faire de l'IA, de l'intelligence machine, comme vous préférez dire, made in Africa, je propose d'écouter la réponse d'un autre chercheur engagé, cette fois-ci au Cameroun. C'est Paulin Melatagia, il est responsable de l'équipe de recherche en sciences des données et en IA au département informatique de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Et il était interrogé sur RFI le 12 juin dernier par Laurent Corot.
L'Afrique est un acteur aujourd'hui qui développe ses propres solutions et les leviers à travers lesquels ces éléments-là sont mis en œuvre, c'est d'abord la formation, la recherche et le monde de l'entrepreneuriat qui de plus en plus met en œuvre des solutions d'intelligence artificielle.
Quels sont les lieux qui sont emblématiques à l'heure actuelle des compétences africaines en matière d'intelligence artificielle ?
On a l'Afrique du Sud qui porte énormément d'initiatives. Il y a des universités, Stellenbosch par exemple, qui sont extrêmement avancées dessus. Si je prends l'Afrique de l'Est, on a le Rwanda et le Kenya, notamment qui abritent le projet IE for Development Africa, donc qui est un projet qui rassemble plusieurs chercheurs sur le continent. En Afrique du Nord, on a le Maroc, qui est un pôle extrêmement important en matière de développement de l'IA. En Afrique de l'Ouest, je citerai le Sénégal, qui a beaucoup de collaborations avec les pays comme le Nigeria, le Burkina, etc. Et en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui a une très grande école en IA et qui, de plus en plus, travaille avec les pays voisins. Je citerai le Gabon et le Congo-Brazzaville.
Quel est le ou quels sont les projets emblématiques de ce que construit l'Afrique en matière d'intelligence artificielle ?
On a beaucoup de projets, de très bons projets aujourd'hui qui sont mis en œuvre, que ce soit au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, où on développe des chatbots, on développe des voicebots qui proposent des solutions, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Et surtout, ce qui est fondamental ici, c'est que ces agents conversationnels-là utilisent les langues africaines pour la communication, pour permettre à Monsieur Tout-le-Monde d'accéder à ces services-là.
C'est aussi votre but, Moustapha Cissé, que les Africains et les Africaines puissent s'emparer et bénéficier de cette intelligence machine. La question des langues vernaculaires, notamment, c'est une question importante aussi.
Pourquoi les appelle-t-on des langues vernaculaires ?
Vous avez raison, vous avez raison. Ah, vous c'est vraiment très bien de vous entendre parce qu'on se rend compte que, voilà, vous ne ratez rien.
Alors,
et vous nous remettez les pendules à l'heure, hein, on en a besoin, je pense.
Je n'irai pas jusque-là, je me garderai bien de... Vous savez, j'ai vécu pendant longtemps en France et ça a fait de moi un grincheux.
Non, mais c'est bien, on aime ça, nous on en veut encore.
je pense qu'il a totalement raison. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent sur le... sur le continent et les sujets, l'état qu'il fait des différentes activités à travers le continent, que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord, sont très vrais. Donc il y a des choses qui se passent aujourd'hui. En ce qui concerne l'entrepreneuriat et les projets qui existent, effectivement, les gens sont très intéressés par tous les projets qui tournent autour de la langue. Vous savez, l'Afrique a une diversité linguistique qui est sans pareil. Nous avons plus de 3000 langues sur le continent. Mmh. C'est-à-dire, il y a une diversité linguistique à l'intérieur de l'Afrique qui est supérieure à toute autre diversité linguistique
dans le
partout
monde,
ailleurs.
Mmh.
Voilà. Les Africains sont par défaut bilingues ou trilingues. En tout cas, ils sont polyglottes en règle générale, ce qui n'est pas le cas partout. Cette diversité linguistique est clairement une richesse. Quelquefois, elle peut être un frein à des échanges, à des échanges que pas seulement des échanges économiques, mais des échanges culturels aussi. Mmh, mmh. Et nous pensons que la technologie peut aujourd'hui contribuer à fluidifier les rapports entre différentes populations qui parlent différentes langues, parce qu'on parle vraiment de langues. Ces langues n'ont pas besoin de qualificatifs supplémentaires.
Vous avez raison. Et donc, effectivement, on pourrait penser à traduire toutes ces langues et à pouvoir interroger toutes ces langues. J'aimerais bien que vous nous parliez, Moustapha Cissé, maintenant de cette plateforme Kera, donc plateforme d'intelligence artificielle pour la santé que vous lancez actuellement au Sénégal et que vous souhaitez développer sur le continent. Alors là encore, au-delà des frontières, qu'elles soient nationales ou linguistiques.
Alors, Kera est un projet sur lequel je travaille avec toute une équipe, y compris mes cofondateurs, Papa Sow et Hossam Matar. Mm-hmm. Et nous travaillons avec, nous sommes une équipe d'ingénieurs, de chercheurs, de médecins, de pharmaciens, etc. Et nous travaillons à améliorer l'accessibilité à la santé. Alors, nous partons de l'axiome qui est que tout parcours de soins commence par une question. Et il est important que cette question soit répondue avec des informations qui sont fiables, mmh. et que ces réponses arrivent dans des termes qui sont compréhensibles par les personnes qui les posent et que potentiellement que ça se fasse dans la langue de la personne qui pose ces questions. Alors, cet axiome de départ définit une partie de nos efforts dans le cadre technologique où nous développons une plateforme qui permet aux gens d'accéder à de l'information fiable dans le domaine de la santé, et au-delà de cette information, à partir de cette information, d'accéder à un univers qui leur permet d'avoir quand ils en ont besoin, parce que aujourd'hui le système de santé en Afrique et c'est d'ailleurs vrai partout dans le monde, est organisé autour du patient. Alors patient, ça vient de patience,
avoir de la patience.
Et surtout, en patience, en latin, ça veut dire celui qui souffre.
Donc,
quand on parle de santé, on ne devrait peut-être pas attendre que la personne souffre pour commencer à s'occuper d'elle. Donc,
et oui, ça pourrait être de la prévention aussi.
Exactement. Donc, mm-hmm. Nous avons une approche qui est plus basée sur la santé que sur la maladie. Mais il est important aussi que lorsque les personnes ont besoin de soins de santé, donc quand elles sont malades, puissent avoir accès à des solutions qui leur permettent d'avoir les soins dont ils ont besoin à des prix qui sont très abordables. Donc notre plateforme connecte l'écosystème de santé et permet aux différents acteurs d'avoir accès à l'information qu'il leur faut pour faire leur travail de la meilleure des façons possibles, mais aussi pour réduire les barrières financières de la santé, que ce soit pour les citoyens, mais en particulier aussi pour les personnes qui vivent dans des endroits beaucoup plus défavorisés.
Et c'est ça, qu'il puisse y avoir accès, sacré chantier en tout cas. On se rend compte que là, l'intelligence artificielle, on reviendra sur les questions que ça pose aussi, mais ce ne sont pas les mêmes, hein, parfois que ça pose selon la latitude sous laquelle on se place. Vous avez aussi fondé, et là ça répond aussi à pas mal de questions de nos auditeurs sur nos réseaux sociaux, vous avez aussi fondé, et vous dirigez d'ailleurs, le premier master en intelligence artificielle du continent. Il y a eu plusieurs sessions déjà à Kigali au Rwanda, mais également au Ghana. Il y a une nouvelle session qui doit démarrer bientôt à Dakar, au Sénégal. Alors, ça va se passer à Mbour, hein, non loin de Dakar, dans ces centres AIM, ces instituts d'excellence en sciences mathématiques et en physique. Vous êtes à la fois le fondateur. Il fallait un master en intelligence artificielle pour enseigner le meilleur, finalement, aux étudiants et aux étudiantes du continent.
Alors moi, quand je suis parti en France pour continuer mes études en intelligence artificielle, une des raisons était qu'une pareille formation n'existait pas en Afrique. 10 ans plus tard, elle n'existait toujours pas. Et c'est une des raisons qui m'ont motivé à revenir pour créer ce programme de master. Et je salue et je remercie au passage d'ailleurs tous mes anciens employeurs, que ce soit Facebook ou Google, qui ont sponsorisé ce master et qui continuent à le soutenir. Alors nous l'avons créé en 2018 et nous l'avons implémenté depuis lors à Kigali, au Rwanda, à Accra, au Ghana et maintenant au Sénégal depuis quelques années. Ça se passe très très bien. Nous avons diplômé plus de 200 étudiants qui aujourd'hui travaillent dans les centres de recherche et les entreprises de technologie les plus avancées dans le monde, y compris les boîtes que j'ai citées, mais aussi qui sont entrepreneurs en Afrique et qui travaillent avec les gouvernements africains aussi dans le cadre de l'implémentation de l'intelligence machine dans plusieurs programmes à travers le continent. Alors, on oublie très souvent, on insiste beaucoup sur la puissance de calcul, l'aspect matériel et technologique,
les gros ordinateurs
qui sont nécessaires pour faire de la recherche et produire de la technologie dans ce secteur. La chose qu'on oublie, c'est que la matière première de l'intelligence machine, c'est l'intelligence naturelle, l'intelligence humaine.
L'intelligence humaine. Elle est à disposition sur le continent.
Alors, statistiquement, elle est à disposition plus ici que partout ailleurs.
C'est ça.
Parce que c'est ici qu'il y a le plus de jeunes cerveaux disponibles et disposés à acquérir cette connaissance et à l'utiliser pour transformer leur quotidien. Donc, nous avons créé ce programme de master exactement pour ça, parce que tout écosystème... De tout écosystème scientifique n'est aussi bon que par la quantité de chercheurs, d'ingénieurs
qu'elle peut produire
exactement et c'est notre but et ça se passe très bien, ça se passe d'ailleurs beaucoup mieux qu'envisagé initialement. Si aujourd'hui vous utilisez Google Maps par exemple, il faut savoir que les derniers algorithmes qui produisent les cartes qui sont dans Google Maps viennent d'un projet qui s'appelle le Project Mecca. Ce projet sort d'une équipe que j'ai créée au centre de recherche en intelligence artificielle de Google à Accra. Et une partie des ingénieurs qui ont travaillé dans ce projet, en fait, qui sont à l'origine de ces algorithmes-là, sont des diplômés de ce programme de master dont on parle.
Raison de le dire. Hein. Je pense que du coup, on ne regardera plus les cartes de Google Maps de la même manière, maintenant qu'on sait que c'est issu de cerveaux, de jeunes cerveaux au Ghana. Vous ne l'avez pas dit, Moustapha Cissé, mais dans ces masters, il y a des étudiants et des étudiantes, parce qu'on soutient aussi, évidemment, hein, les jeunes informaticiennes. Je propose justement d'écouter l'éclairage d'une autre jeune informaticienne, pionnière elle aussi en intelligence artificielle. C'est votre compatriote, Fatoulaye Niang, doctorante, lauréate d'ailleurs d'une bourse jeune chercheuse L'Oréal UNESCO, qui souhaite-elle développer une application qui rejoint un peu votre application, en vous permettant aux cardiologues de prédire les risques de maladies cardiovasculaires. Elle s'en est expliquée au micro de Léa-Lisa Westerhoff, notre correspondante à Dakar, au Sénégal, tout en rappelant que son projet initial, son premier amour n'était pas l'informatique. Elle est aujourd'hui doctorante, Fatoulaye Niang, mais elle voulait d'abord devenir médecin. Écoutons-la justement sur tous ses choix.
Après le bac, c'est le ministère qui fait les orientations. On a 18 choix à faire. Et j'ai été orientée à mon neuvième choix, qui est l'informatique, que je ne connaissais pas du tout, que je n'aimais pas peut-être. Je me suis dit que je vais arrêter. Et mon père m'a vraiment dit que ce n'est pas reconnaissant de faire ça. Il y a des gens qui veulent aller à l'université, ils n'ont pas la possibilité. Donc toi, tu as la possibilité d'y aller. Vas-y, Dieu te réserve des choses là-bas. Tu ne sais pas encore, donc il faut y aller. Après, même si j'en ai beaucoup pleuré et tout, j'y suis allée, j'ai souffert quelques mois. Et après, quand j'étais en master à l'université de Bambé, j'ai eu à faire un premier cours d'IA. Et c'est là où en fait, j'ai eu peut-être le coup de foudre. Je me suis dit que je vais pouvoir l'appliquer à la médecine, qui était mon premier choix. Donc voilà.
Qu'est-ce qui t'a intéressée dans l'intelligence artificielle?
C'est surtout la capacité qu'a l'IA de nous faire savoir les informations qu'il y a derrière les données, de faire des prédictions. et surtout de pouvoir nous faire gagner du temps et des ressources aussi. Par exemple, pour mon cas, comme je travaille sur les maladies cardiovasculaires, c'est des maladies dont la prise en charge fait un peu défaut au Sénégal. La première chose que j'aimerais faire, c'est avoir une réelle compréhension de nos données, de nos propres données, d'avoir une base de données qui nous est propre et aussi de pouvoir travailler sur ces données-là afin de faire des prédictions. C'est important de prévenir ce genre de maladies-là.
Est-ce qu'il y a une forte demande des patients? Il y a une augmentation de ces maladies?
Oui, il y a une forte demande. Et ce n'est pas des maladies qui peuvent attendre pour le traitement et la prise en charge. Le temps est vraiment un facteur important dans la prise en charge. Donc, si on peut arriver à mettre en place des outils qui nous permettent déjà de comprendre les données des patients, de bien les comprendre, et ensuite de faire la prédiction future, ça peut aider en gain de temps et de ressources.
Toi, il me semble que tu travailles sur une maladie particulière. Est-ce que tu peux m'expliquer ton projet de recherche actuel?
Donc, on a voulu travailler d'abord sur les cardiopathies rhumatismales. C'est des pathologies qui sont souvent liées au manque de ressources et qui touchent souvent les pays qui sont en développement ou qui sont sous-développés. Donc, la recherche a besoin d'avoir des données de ces propres pays-là pour pouvoir avancer. Donc, on compte travailler sur ça avec les jeunes de 5 à 25 ans.
Pourquoi ça touche plutôt les milieux défavorisés et les pays en développement?
Parce que c'est des maladies qui sont liées aux conditions de vie, en fait, et pas d'accès aussi aux structures sanitaires.
Tu disais qu'une des limites, c'est les bases de données, d'avoir accès à des bases de données fiables, des statistiques. Comment résoudre ce problème?
Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller vers les patients ou les enfants, aller collecter des données. On va collecter des données spécifiques à la maladie. On va les traiter, après c'est là où l'intelligence artificielle va s'appliquer.
Une autre limite dont tu parlais, je crois, c'est celle des serveurs, de la capacité informatique des pays.
C'est... Oui. Pour l'instant, moi, je travaille sur mon ordinateur. Je n'ai pas encore de serveur. Et c'est pour ça que même j'ai voulu avoir la bourse L'Oréal. Ça fait partie des projets, si je peux dire ça. Avoir un serveur en place et l'utiliser pour mes futures recherches.
C'est le moins que l'on puisse souhaiter à Fatou Lo Niang, doctorante en intelligence artificielle au Sénégal, au micro de notre correspondante permanente à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff, pour qu'elle puisse justement poursuivre ses recherches. Elle a besoin d'un serveur. On se dit tout de même, Moustapha Cissé, je veux bien votre avis là-dessus, que oui, il faudrait qu'elle ait un serveur. Enfin, ça paraît d'une évidence absolue pour nous, vu d'ici, moi, vu de Paris, alors que vous êtes vu de Dakar.
Alors effectivement, c'est un préalable pour la plupart pour entraîner la plupart des modèles qui sont utilisés dans le domaine. Ce qu'elle fait est très important. Et j'ai écouté avec plaisir son parcours, qui à bien des égards est très représentatif du parcours de beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui travaillent dans le domaine. Et en particulier, je suis très sensible aux problèmes auxquels elle s'intéresse. Mm-hmm. Et l'approche collaborative qu'elle a de ces sujets. Pour collaborer avec des médecins au quotidien, juste avant de venir, j'ai discuté avec une médecin qui est dans notre équipe, qui s'appelle Dr Yaye Fatou Traoré, que je salue au passage. Mm-hmm. Je sais qu'il est très important de créer ces synergies entre les différentes disciplines pour pouvoir résoudre des problèmes aussi importants tant que celui auquel elle s'adresse en ce moment. Donc, ça sera un plaisir de discuter avec elle et potentiellement de l'aider à avoir ses serveurs, parce que nous-mêmes, nous utilisons de tels serveurs pour entraîner nos modèles.
Ah, mais ça serait bien.
La félicite beaucoup. Ouais, je la félicite beaucoup et lui dis notre grande fierté de voir des brillantes jeunes femmes comme elle travailler à faire avancer ce domaine.
Ouais, c'est ça. Et là, on est vraiment, pour le coup, dans la connexion et sans jeu de mots, dans les connexions. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut travailler avec des médecins, il faut parler aux gens du pays à qui on s'adresse, enfin la culture à laquelle on s'adresse. Il y a vraiment une question de connexion, j'ai l'impression, à faire, à monter. Et c'est ce à quoi vous vous attachez, au fond.
Oui, enfin ça c'est le propre de la science. Hein. La science n'est pas une entreprise solitaire.
C'est vrai.
Et c'est un exercice à bien des égards qui se nourrit d'interactions, en fait. C'est une créativité collective, c'est une entreprise collective de recherche de la vérité. Et plus on a de brillants esprits qui se mettent ensemble pour des problèmes importants, mieux on avance dans le domaine.
Donc, on va continuer d'avancer.
C'est dans l'ordre normal des choses.
En interaction, cette fois-ci, non plus seulement en science, pour continuer de s'interroger avec vous, Moustapha Cissé, qui est en duplex avec nous depuis nos studios à Dakar. On va se mettre à l'écoute de trois artistes sénégalais connectés aussi, Nagaka Blindé, One Lyrical et Sidi Diop, qui unissent leur force et leur slam dans ce morceau dédicacé aux femmes, bien sûr, Jigun sur RFI.
J'ai quelques menaces, surtout réirmandé, boule d'or, boule saga gentleman, Jigun, y'a le mot que dans les liens. Santana, le pégal, le gorel. Kol ci ñoom dinañ wara téral bu kër gi neex ñoom la dañ leen wara kéral suma señoom dara du leen metti yena waral
ayé ko xol ba jël lu metti tek ko buñ ko demon tek sa doom di nga mëna yegg li mayé tay ma way ba fokk ni dama daf fama wama wala xol ma yalla jigen yaayé
yow say wén seug waye yañu mën gannaaw yonenti lu yalla bind ya ci gën kon buñ ko xarafal buñ ko gan ci den ndox lu jéggi pax bu jéggé pax dafa fekk pañi
buñ ko door bul ko saga o jël ko def ko dom ndam moy sa sox na moy sa yaya boyo yeul ma né ci wa
jigen bul ko door bul ko saga mérité wul li ndax mo ñu jural yaayi jural ñu bay boy kon yeul ma né ci ñi jigen bul ko door
Jigun sur RFI, où nous sommes en duplex à Dakar, dans nos studios RFI, avec le brillant chercheur Moustapha Cissé, autour de la question qu'on va faire de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence machine made in Africa. Je vous propose, cher Moustapha, d'écouter un de vos amis avec qui vous avez travaillé, collaboré, un des plus éminents chercheurs en IA dans le monde, c'est Yann Lequin, lauréat du prix Turing, créateur et directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook Meta, qui est resté donc votre ami et avec qui vous partagez beaucoup. Je vous propose de l'écouter. Yann Lequin, je lui avais demandé, c'est en 2019 exactement, à la parution de son ouvrage « Quand la machine apprend » aux éditions Odile Jacob, je lui ai demandé comment il envisageait l'avenir de l'IA, de cette intelligence machine, ce qu'il en attendait ou en espérait. Je vous propose d'écouter la réponse de Yann Lequin et évidemment vous réagirez ensuite, Moustapha Cissé.
Je considérerais ma carrière comme un succès si, à la fin de ma carrière, on arrivait à faire une machine qui ait l'intelligence aussi générale et le même sens commun qu'un rat ou qu'un chat. Un chat un peu plus intelligent qu'un rat, mais quand même. Donc c'était une manière de dire que, pour l'instant, on n'a pas ces techniques. Malgré le fait qu'on puisse faire des machines très intelligentes avec des performances surhumaines sur des tâches étroites, on n'a pas ces techniques pour l'intelligence un peu plus générale. Mais bon, on y travaille. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire que ça pourra prendre 5 ans, 10 ans. Il y aura peut-être une nouvelle idée qui va apparaître d'ici 2 ans, qui va tout révolutionner. Une fois que l'idée sera apparue, avant qu'elle devienne vraiment pratique, ça va peut-être prendre une décennie ou deux. Puis ensuite, il faudra des années de développement pour vraiment...
Mais c'est lié avec cette question des émotions, entre guillemets, de pouvoir ressentir, allons-y, une machine qui ressent...
Je pense que l'intelligence autonome est inséparable de l'existence d'émotions. C'est-à-dire quand on arrivera à faire des machines qui sont autonomes, elles auront des émotions.
Vous partagez le point de vue de votre ami, de votre mentor Yann Lequin, Moustapha Cissé?
Ouais, ça fait plaisir de l'entendre. Vous savez, Yann a le mérite d'avoir prédit un peu avant que vous l'aviez interrogé en 2019 que la prochaine avancée importante de l'intelligence artificielle découlera de techniques qu'il appelait à l'époque l'apprentissage auto-supervisé.
Ouais, ouais.
Et il s'est passé exactement ce qu'il avait prédit parce que toutes les avancées récentes dans le domaine de... En particulier dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui les large language models, donc les modèles de langue, les grands modèles de langue, sont le fait d'apprentissage de ce qu'on appelle du self-supervised learning.
Mmh. Apprentissage donc, profond
et auto-supervisé. Qui est beaucoup moins gourmand en données étiquetées que l'apprentissage supervisé classique. Mmh. Donc, il a le mérite d'avoir raison sur beaucoup de choses. Je partage son avis d'ailleurs quand il dit qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à une intelligence machine générale qui est au niveau de l'intelligence d'un chat. Il est clair que pour des tâches bien précises, nous avons des modèles qui font bien mieux que les êtres humains. Mais il ne faut pas s'y méprendre. On est encore très loin, je pense aussi loin aujourd'hui qu'en 2019, quand il en parlait, d'une intelligence machine générale qui a un sens commun important et qui peut faire performer dans plusieurs tâches. D'abord parce que cette intelligence n'est pas incorporée, elle n'est pas...
Elle n'a pas un corps, mais en même temps, ça peut faire peur. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Ça peut faire
Pourquoi
peur aussi.
Pourquoi ça peut faire peur?
Une intelligence machine, qui aurait des émotions.
Oui.
Moi, je dois dire que ça me fait un peu peur.
Pourquoi ?
Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on aura en face ? C'est même pas une histoire d'être dépassé par des machines que l'on peut créer. Il peut y avoir une peur là-dessus, se dire, le vivant, il peut avoir une intelligence générale, mais quand c'est une machine, une intelligence machine qui devient, elle n'est pas incorporée déjà, mais qui devient émotionnelle, réactive, générale, oui, on peut se demander dans quel monde on sera.
Vous savez, c'est très intéressant que vous dites que vous, ça vous fait peur. Mm-hmm. En fait, la réalité, c'est que la peur n'est pas un état très productif d'un point de vue purement scientifique.
C'est
en fait,
vrai.
Je ne pense pas que ça soit un état particulièrement productif pour la réflexion.
En général,
simplement.
Non, oui.
Et malheureusement, aujourd'hui, cette peur est la principale motivation de plusieurs et le fil conducteur de plusieurs débats qu'on a sur l'intelligence machine.
C'est vrai.
Nous, on parle de régulation excessive de la technologie, de l'intelligence artificielle en particulier. Mais il est important qu'on s'arrête sur ces questions et qu'on se demande ce que nous apprend l'histoire.
On arrive à la fin de cette émission, mais j'ai envie d'en refaire une autre avec vous sur cette question-là. Prenons rendez-vous pour une autre émission. On sort de l'IA Made in Africa et on réfléchit sur l'avenir de l'IA en général avec des grands esprits comme vous. Vous en êtes d'accord, Moustapha ? Prenons rendez-vous pour une prochaine. Je vous dis vraiment un grand merci d'avoir
merci
été avec nous en duplex depuis Dakar. On aimerait vous entendre encore, mais on va le faire bientôt parce que on a envie d'entendre votre voix. J'ai un grand merci sur place à Dakar au technicien Malang Sonko et bien sûr merci à Thibaut Baduel de l'autre côté de la vitre, réalisation à Paris, à Caroline Fillette en coulisses. Merci chers amis auditrices et auditeurs, vous avez été nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux. Je pense que Moustapha Cissé vous a apporté pas mal de réponses et sûrement plein d'autres questions. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les poursuivre ensemble. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et dans quelques instants, ce sera l'heure des infos sur RFI.